France Musique.
Je t'emporte, ô mon amour, nuit et jour.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club tous les soirs de la semaine à 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade qui est bien calme ce soir. Ce qui n'empêche qu'on aura au cours de l'émission le cocktail de la semaine qui sûr nous mettra tous en joie jusqu'au milieu de la nuit. Ils sont deux à m'avoir rejoint ce soir qui sont tous les deux des fous amoureux de Debussy qui le joue au piano pour l'un, qui le dirige pour l'autre. Ils se connaissent en plus donc nul doute qu'on aura plein de choses à raconter sur Pelléas. Nous sommes avec Louis Langrée et Philippe Cassard. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
Fellow citizens, we cannot escape history. That is what he said that is what Abraham Lincoln said. Fellow citizens, we cannot escape history. We of this Congress and this administration will be remembered in spite of ourselves.
C'est un extrait de Lincoln Portrait, le portrait d'Abraham Lincoln par Aaron Copland, de Louis Langrée, dirigé de l'Orchestre Symphonique de Cincinnati. Bonsoir, Louis Langrée. Qu'est-ce que vous me disiez à l'instant? C'était votre premier concert à Cincinnati qu'on entendait là, c'est ça?
Oui, c'était mon concert inaugural il y a 4 ans maintenant.
Ah ouais, au moment où vous avez pris la direction de l'orchestre. Donc, oui. On se retrouve aux États-Unis, on est obligé de diriger évidemment la musique américaine aussi. Du coup, vous vous retrouvez avec plein de compositeurs américains que vous devez découvrir avec votre orchestre en face de vous, c'est ça?
Oui, absolument. Mais l'Orchestre Symphonique de Cincinnati, dès ses origines, mettait un point d'honneur à promouvoir les compositeurs de son temps. Ouais. Et donc, Edgar Varèse est venu le diriger, Richard Strauss, Respighi, Elgar, et puis maintenant John Adams ou Penderecki, Aaron Copland est venu plusieurs fois et l'orchestre a créé cette œuvre. C'est pour ça que je l'ai dirigé lors de mon premier concert. Et puis Bartok est venu, Camille Saint-Saëns est venu. Et alors l'orchestre a donné les premières américaines de plein d'œuvres de Ravel, de Debussy, la cinquième de Mahler, etc. Donc c'est moi d'ailleurs dans mes 3 premières années, j'ai commandé et dirigé 12 premières mondiales.
Ah oui, quand même.
Ça continue.
On en reparlera un peu plus tard d'ailleurs parce que justement on va écouter une pièce. Vous nous raconterez sans doute l'histoire Louis Langrée. Donc l'histoire côté d'amour, ça se continue à Cincinnati. Maintenant vous y habitez, c'est ça en plus.
Ah
hein
oui, j'y habite. Je suis en train de finir mon premier mandat et j'ai déjà signé pour un 3e mandat.
Ah d'accord. Ah oui, donc ça se passe bien.
Avant d'avoir commencé mon second.
Vous avez toute l'histoire de la salle. Vous m'avez raconté l'an dernier quand on s'était vu des histoires de salle. C'est absolument incroyable la salle que vous avez là-bas en fait, qui est à l'origine pas du tout une salle de concert, c'est ça aussi? Je sais plus.
Si, mais c'est une salle qui était construite pour que les gens y chantent. Ouais. Parce que comme c'était une ville d'immigration allemande, lorsque les gens avaient trop le mal du pays, ils chantaient. Il y a eu ces grandes organisations chorales, et en particulier le May Festival, qui est un festival choral qui a lieu chaque année, où James Conlon était directeur musical de ce festival pendant 37 ans. Ouais. Avant lui, James Levine. Avant lui, Leonard Bernstein. Donc c'est vraiment un festival important. Et puis en Allemagne, la musique est vraiment l'art par excellence. Donc la musique fait toujours partie de l'identité de la ville.
Et une musique plutôt côté allemand, vous le dites bien, comme si cette tradition était... Et d'ailleurs, est-ce qu'elle est encore vivante aujourd'hui?
Pas forcément, puisque oui, Camille Saint-Saëns est venu, Scriabin est venu, Rachmaninoff a dirigé et joué, a donné 21 concerts. Non, je crois qu'il y a une ouverture sur le monde, un éclectisme, une curiosité qu'on n'imagine pas forcément vu d'Europe.
Alors en voici un qui habite aux États-Unis toute l'année, puis j'en ai un autre en face qui revient de tourner là-bas. Bonsoir Philippe Cassard.
Bonsoir Lionel.
Vous étiez avec Nathalie Dessay en tournée récital,
oui.
Pas seulement aux États-Unis d'ailleurs.
On a commencé par le Japon.
Ouais.
Et puis on a poursuivi par les États-Unis avec Carnegie Hall à New York et Boston au Jordan Hall. Et puis ensuite on est remonté sur le Canada avant de revenir en France la semaine dernière.
Longue tournée d'un mois quasiment.
Un mois pratiquement. Oui.
Ouais.
Et, il faut se remettre du décalage. Nathalie a beaucoup beaucoup de mal. Il lui faut plusieurs jours pour se remettre des longs décalages horaires. Mais alors je dois dire qu'elle était dans une forme à chaque concert plus éblouissante que le précédent.
Et alors autant en France on l'aime, autant aux États-Unis c'est même pire que ça. C'est quasiment de l'ordre de l'adulation, je crois.
Carnegie Hall, elle ne s'était pas produite en concert à New York depuis 3 ans. En fait, depuis notre dernier récital sur la même scène, elle a eu droit à une minute montre en main d'applaudissements et d'ovations quand elle est arrivée.
Ah oui, à l'entrée, pas à la fin. À l'entrée, d'accord.
Alors la pression, je vous dis pas. Mais en même temps, ça nous porte. Ouais. Parce qu'il y a une telle chaleur et une écoute. Il y avait une écoute du concert et le concert de Boston était encore, je trouve, encore plus beau, encore plus libre. C'est ce qui nous plaît, c'est de trouver chaque fois, à chaque concert, des moments de liberté où on s'écoute vraiment sans... On perd presque contrôle parce qu'on est dans une écoute et quelque chose de fusionnel. On est heureux.
Et qu'est-ce qu'il fait le pianiste pendant la minute où le public fait une ovation à la chanteuse ?
Il regarde sa montre. Non, moi je suis très heureux, ça me touche beaucoup, mais en même temps, c'est, voilà, presque le trac est arrivé là.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on s'y attend.
En même temps, si le public
peu,
est acquis, il n'y a pas de problème, on peut faire ce qu'on veut. Ah non.
Je trouve que à New York, enfin, le Carnegie Hall a l'art de vous mettre quand même devant le défi que c'est de chanter déjà devant une, ou de jouer devant une salle aussi grande, hein, il y a quand même 2800 places. Avec un public qui n'en est pas à ses premiers concerts et qui en a vu défiler d'autres. Ouais. Il suffit de faire le tour des couloirs pour voir toutes les photos.
Bon, ça impressionne toujours voilà. Un peu.
Mais c'est surtout que l'organisation du Carnegie Hall, les gens, le staff, c'est un accueil à nul autre pareil. Enfin, on vous demande quel petit sandwich on va confectionner pour vous. Il y a une habilleuse, il y a quelqu'un qui passe le steamer sur la robe. Et puis, enfin voilà, on a des beaux pianos pour travailler. Moi, écoutez, j'ai même pu travailler d'autres œuvres que celle du récital avec Nathalie. On m'a donné la scène du Carnegie Hall tout un après-midi.
Ah oui.
J'ai pu travailler un concerto de Chopin que je dois apprendre. Je trouvais ça un privilège. Et tout l'accordeur, en fait, chaque minute. Mais alors en retour, il faut assurer quoi.
Je comprends. Vous confirmez, hein, Louis Langrès, c'est bien organisé les États-Unis.
Ah oui.
Ah ça oui.
Absolument. Et moi, la différence de Philippe, je suis le seul musicien sur scène qui ne produit aucun son.
Oui.
Donc la pression n'est pas la même.
Quand même un peu. On va parler avec vous pour Philippe Cassard, entre autres, du disque que vous venez de faire avec Nathalie Dessay et qui est sorti autour de Franz Schubert et puis pour Louis Langrès de Péléas et Mélisande, donc que vous dirigez depuis hier soir à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Tiens, on va faire un détour avant d'entrer vraiment dans le sujet de Bussy par un concerto que vous nous proposez ici. Enfin, un concerto, une pièce signée Sébastien de Courir. L'extrait d'une pièce de Sébastien Courir, Flex, qui était joué par l'Orchestre Symphonique de Cincinnati, dirigé par Louis Langrès.
Lionel Esparza, Classic Club, France Musique.
22h14, il me revient juste un truc, Louis Langrès, que j'ai lu cet après-midi, vous concernant, dans un article de journal il y a des années et des années, vous rendiez hommage à Jean-Claude Malgoire, en disant que c'était lui qui vous avait mis le pied à l'étrier, c'est vrai ?
Absolument.
Ouais, vous vous souvenez pas de ça, ou je l'ai jamais su, j'en sais rien.
Ah oui, je... C'est le premier qui m'a engagé, c'était une série de concerts Mozart avec Catherine Dubosc et Jean-Claude Pelletier.
Et vous aviez quel âge là ?
Oh, je sais plus, j'avais 30 ans.
Ah ouais ? Ah, vous n'étiez pas un débutant chef alors ?
Si, si quand même. Je n'étais pas un débutant musicien, mais je suis venu à la direction très tard.
Ah ouais,
enfin, très tard. Non, maintenant, si on débute la direction à 18 ans, on a l'impression que c'est tard. Non, pas du tout. Mais je suis passé par une autre voie et donc j'ai sans doute mis plus de temps que d'autres, mais c'était ce qui me correspondait et voilà, je ne regrette pas.
Et c'est passé donc au début par Jean-Claude Malgoire, ce qui est étonnant parce qu'on sait le nombre de chanteurs auxquels il a donné leur première chance, mais un chef d'orchestre, je savais même pas.
C'est un homme d'une générosité extraordinaire.
Ouais, absolument. On va parler avec vous de Péléas et Mélisande, bien sûr, Louis Langrée, que vous dirigez depuis hier soir, donc au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Il reste encore 4 représentations jusqu'au 17 mai. La mise en scène a été confiée à Éric Ruff. Je dis juste en passant qu'on aura les costumes de Christian Lacroix. C'est toujours super de voir les costumes de Christian Lacroix. Et dans la distribution, entre autres, Patricia Petitbon et Jean-Sébastien Bou, pour ne citer que, vous dirigez l'Orchestre National de France. C'est pas votre premier Péléas de très loin, même si c'est votre première fois avec l'ONF. Mais vous allez diriger déjà beaucoup à Paris du Péléas, comme si finalement on vous avait demandé que ça ces dernières années. C'est un peu dommage, et en même temps, enfin, qu'on vous demande que ça, mais en même temps, ça veut dire que vous êtes bien dans cette musique aussi.
Oui, c'est une œuvre centrale dans ma vie de musicien, pas seulement de chef, mais je me suis plongé, immergé dans Péléas avant même d'imaginer que j'allais le diriger plus tard. Et c'est sans doute un bon chemin pour entrer dans cet univers-là. Vous savez, quand vous êtes chef d'orchestre, vous ouvrez une partition et vous dites, est-ce que je dirige ça à 4, à 2 ou à 8 ? Alors qu'un pianiste ne se dit, ou un musicien ne se dit jamais ça à un instrumentiste. Il cherche d'abord à voir comment la musique va se développer, quel est le tempo le plus juste pour la phrase. Et donc, en fonction de ça, après, vous décidez comment vous allez l'organiser techniquement. Mais c'est une œuvre, s'il y avait une seule œuvre pour moi à emporter sur une île déserte, ça serait sans aucune hésitation Péléas.
Et depuis quand, vous le savez ? Vous en souvenez ?
Depuis que j'ai vu la production à l'Opéra de Lyon de Pierre Strausser, dirigée par John Elliott Gardiner, avec José Van Damme, François Leroux, Colette Alliot-Luga. Et j'ai d'ailleurs travailler, participer à cette production. J'étais pianiste, ensuite j'étais assistant. Et c'est une production qui m'a marqué. Comment dire ? C'est grâce à cette production que j'ai fait de l'opéra. Je crois que j'aurais pas eu le goût de cela avant. Et au début, d'ailleurs, j'étais un chef lyrique qui faisait du symphonique. Maintenant, c'est le contraire. Je suis un chef symphonique qui fait, et avec grand plaisir de temps en temps, qui dirige des productions lyriques. Mais la manière de délivrer chacune des phrases, aussi bien musicalement que pour les chanteurs, que le texte de Maeterlinck, qui est absolument sublime, demande une intensité, une simplicité, c'est une épure qui est extraordinaire. Et puis c'est une œuvre qui vous hante. Je veux dire, des semaines et des semaines après avoir dirigé Péléas, vous avez des phrases qui remontent en vous.
Les phrases de Maeterlinck, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes, des phrases comme ça ?
Oh oui, tout.
Pour ne citer que celle-là, il y en a tous les coins de rue. Hein.
Absolument. Il n'arrive peut-être pas d'événements inutiles.
Oui. Enfin,
chaque page, il y a des phrases comme ça qui vous marquent.
Et en même temps, on comprend qu'on puisse en rire de cette diction, je ne sais pas comment on peut dire, la manière dont Debussy le transmet musicalement, de ce que nous disent ces phrases aussi. On peut se dire qu'une écoute rapide la première fois. Allez, la première fois qu'on entend de Péléas, on peut comprendre qu'on ait un peu de mal à rentrer là-dedans, non ?
Non.
Non, ah. Non.
Ou plutôt, comment dire, c'est une œuvre fragile.
Ouais.
C'est une œuvre qui dépend de nous, interprètes. D'ailleurs, je pense que Péléas, il ne faut pas l'interpréter, il faut le délivrer. À partir du moment où vous voulez romantiser ou charger les phrases, effectivement, elles ne tiennent pas, ça devient ridicule. Mais si vous les dites avec une simplicité sacrée, alors elles résonnent en vous pour le reste de votre vie.
Il ne faut pas l'interpréter, il faut le délivrer, Pelléas. C'est joli, ça, hein, Philippe Cassard. Enfin, c'est plus que joli, en
il
plus.
Il a raison, hein. Il a raison, parce que c'est... moi, ça me fait beaucoup penser à ce... au cinéma de Bresson, par exemple, ou de certains, ou les premiers Rennais, quand, justement, il n'y a rien à ajouter au texte, juste le délivrer. J'aime beaucoup ce mot, bravo. C'est très touchant. Enfin, je dois dire, je suis... Bon, notre répertoire de piano comporte quand même pas mal de merveilles, mais c'est vrai que Pelléas, parmi les opéras, c'est probablement, oui, un des deux ou trois que j'emporterai sur une île déserte. Oui, j'en suis... Ça me hante, cette musique, comme vous, Louis.
Vraiment. Mais qu'est-ce qui hante? C'est la musique, elle-même, ou c'est ce qu'elle nous raconte, et cette histoire?
Tout est beau, c'est ensorcelant, envoûtant. Enfin, c'est hypnotique, cette musique. C'est une sensualité, c'est torride, c'est sensuel, c'est... Enfin, Louis en parlerait beaucoup mieux.
Puis c'est là. Tragique, surtout, oui, non? Oui, il est en gré.
Tristesse.
Oui. Oui, il y a ces personnages prisonniers de leur destin. C'est beaucoup plus qu'un opéra romantique type. C'est pas une histoire d'amour contrarié. Mmh. Ce sont ces personnages qui traversent, portent au travers de leur vie leur solitude, leur impossibilité à communiquer. Je veux dire, ne serait-ce que dans la deuxième scène de l'opéra, Golo ne peut pas écrire à son grand-père. Il écrit à son frère pour que son frère porte la lettre à leur mère et que leur mère la lise au grand-père. Donc il y a tout ce qu'on ne sait pas comment dire, tout ce qu'on n'ose pas dire, toutes ces phrases qui finissent avec des points de suspension et qui donnent une densité et une force absolument mystérieuse et magnifique. Mais le symbolisme va contre le vérisme de Puccini ou le naturalisme de Zola ou Bruno. Enfin, cette époque-là, trop souvent aujourd'hui, on pense que c'est voilà les espèces de charmes pré-raphaélites, si vous voulez. Alors que c'est une œuvre forte, puissante, vénéneuse à certains moments, venimeuse.
On va entendre cette force justement, un des rares moments qui soit tellement explosif dans l'opéra, bien sûr la mort de Pelléas, la fin du quatrième acte.
Jusqu'au fond du jardin, et je le sens tout mon bras bruissement.
Il a son épée.
Ce n'est pas la même.
Il a vu que nous nous embrassons.
Il ne sait pas que nous l'avons vu. Ne bouge pas, ne me tourne pas la tête. Il se précipiterait. Il nous observe. Il est encore immobile. Va-t'en, va-t'en. Tu suis par ici. Je l'attendrai, je l'arrêterai.
Va-t'en,
il a tout vu.
Du quatrième acte de Péléas et Mélisande, Claude Debussy, Frédéric Affonstadt, Richard Stilwell et Herbert von Karajan qui dirigeaient le Philharmonique de Berlin. 1978, vous me disiez, alors qu'on entendait ceci, Louis Langré, quelque chose à propos de Karajan, justement.
Oui, c'est Michel Glotz qui racontait cela. Lorsqu'on demandait à Karajan quelle était l'œuvre qu'il avait dirigée, qu'il aurait aimé écrire, alors tout le monde s'imaginait Wagner.
Ah oui, Strauss.
Eh ben non. C'était Péléas. Et d'ailleurs, c'est une œuvre que beaucoup de chefs gardent jalousement. James Levine, pendant 30 ans, n'a jamais laissé un autre chef diriger Péléas au Met. Là, il l'a fait il y a 2 ans avec Simon Rattle, parce qu'il avait ses problèmes de santé. Mais c'est une œuvre... d'abord, vous n'en sortez pas indemne, mais lorsqu'elle vous a pris... vous ne pouvez plus vivre sans elle.
Ouais. J'ai choisi ici Karajan, pas en goût personnel, mais parce que c'est beau quand même, non?
Mais enfin bon, mais c'est magnifique.
Ah oui, quand même, non, très beau.
Oui.
Mais c'est quoi votre version à vous, Louis Langré?
Bah, moi, j'ai un faible pour la version d'Engelbrecht,
ouais.
Avec l'Orchestre National de France, et donc c'est un grand privilège pour moi de pouvoir diriger cet orchestre. Évidemment, ce ne sont plus les mêmes musiciens, mais il y a cette ADN collectif qui se transmet. Je crois que chaque musicien qui arrive dans un orchestre apporte un peu d'air frais, du sang neuf, et en même temps va s'inscrire et se fondre dans ce style, cette identité collective. Et il y a chez ces musiciens ce raffinement, cette aristocratie dans la manière de délivrer les phrases qui est absolument magnifique. Et, je veux dire, maintenant, il y a des musiciens formidables partout, quand on voit le niveau de recrutement partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait que, lorsqu'ils sont ensemble, eh bien, des musiciens vont cultiver cette identité sonore qui leur appartient. Ça, c'est vraiment une grande joie. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'orchestres qui jouent bien, mais qui ont ce son opulent, rond et un peu international, si on veut. Et l'Orchestre National de France a gardé ça, et quelle joie.
Philippe Cassard, Péléas et Mélisande, vous l'avez joué au piano, parce qu'il se trouve que vous avez accompagné des représentations en format, on va dire.
C'est oui, ça, il y a une dizaine d'années, peut-être même un peu plus, je me souviens plus exactement. C'est une production de Vincent Vitoz, d'ailleurs, avec un décor minimaliste, enfin vraiment juste quelques tréteaux, et le piano était une sorte d'objet du décor, c'était la grotte sous laquelle ou sous lequel piano on passait, enfin Golo et Péléas passaient, enfin d'où Ignolde surgissait, enfin il y avait pas mal de le piano, ça. Mais j'avais donc dû travailler toute la partition Et je dirais que ça a changé beaucoup de choses dans ma perception de l'œuvre pour piano, seul, de Debussy.
Pourtant, il n'y a pas de rapport, a priori, à l'opéra.
Mais en fait, il a écrit cette... Il n'a orchestré que tardivement, Debussy, parce qu'il voulait être sûr, d'abord, de ne pas travailler pour rien. Il voulait être sûr que la commande était véritable, de Albert Carré. Donc, tout était dans sa tête, il y avait des esquisses, etc. Mais en fait, l'orchestration n'est arrivée que très tard. Et donc, pendant des années, 5-6 ans, il a rodé chaque scène au piano. On sait très bien, il chantait tous les rôles. Et donc, il s'est fait, si j'ose dire, une version à sa main. Alors, il n'était pas, sans doute, un pianiste virtuose, mais on sent très bien, quand on prend possession de la partition de piano, on sent très bien quel merveilleux jeu orchestral il pouvait avoir. C'est-à-dire que c'est un piano, il y a une patte sonore, il y a une manière de faire sonner les accords. Bon, c'est aussi au pianiste qui joue de les faire sonner, mais on sent très bien intuitivement que tout l'enseignement qu'il avait reçu, notamment de Madame Mottet, Fleurville, la belle-mère de Verlaine, qui se disait élève de Chopin, c'est-à-dire le gras du piano, les sonorités, la pédale, les vibrations de la pédale, enfin tout ça, le cantabile, absolument, ça c'est très 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 présent dans la partie de piano. Je ne parle pas des endroits où on accompagne vraiment les chanteurs avec ce rythme très très difficile, délicat, mais toutes les grandes processions ou les interludes, moi je trouve ça admirablement écrit pour le piano, et on entend déjà un peu Hommage à Rameau, L'île joyeuse, certains passages, certains préludes, Children's Corner, enfin c'est là.
Si la musique de piano était sortie un petit peu de là quand même aussi, de ce travail-là.
Ah oui, ça j'en suis certain.
Est-ce qu'il a composé d'ailleurs des pièces de piano pure pendant la période où il travaillait sur Péléas?
Secondaire,
c'est ça, hein.
La suite pour le piano, mais qui est antérieure. Pas vraiment, parce que il y avait Prélude à l'après-midi d'un faune qui était juste avant, disons, les esquisses de Péléas. Puis ensuite il y a les nocturnes, hein, je crois, Louis de 1899 ou quelque chose comme ça. Mais pour piano seul, il n'y a pas grand chose de vraiment. Il y a des mélodies, beaucoup de mélodies. Mais pas vraiment de choses essentielles pour le piano. C'est 1902 avec les estampes que vraiment la voie royale des œuvres pour piano va être ouverte.
Debussy au piano, la voie royale, dites-vous. Ben on va entendre justement, on va vous entendre, Philippe Cassard, avec Nathalie Dessay, ici dans un extrait des Fêtes galantes.
Thank you.
En sourdine de Claude Debussy sur un poème de Verlaine, c'était extrait de ses Fêtes galantes, chanté là par Nathalie Dessay avec Philippe Cassard. Au piano, le chant de Pelléas, il est pas, c'est très différent de ce qu'on entend là. C'est comme s'il y avait finalement deux vocalités différentes chez Debussy.
Mais là, Philippe, il a 20 ans, il a 20, 23 ans quand il écrit ça. C'est tout jeune, là, on est en 1884. Enfin, ouais. C'est vraiment toute cette... Non, c'est très, très... Enfin, je voudrais peut-être mais... je commets une erreur, mais il est très jeune. Ouais. Et il est encore, on va dire, même si c'est très luxuriant, la partie de piano, c'est d'ailleurs très intéressant de voir toutes les beautés qui réservent aux parties de piano de ces mélodies, et qu'en même temps, quand il écrit des petites pièces pour piano, elles sont pas très intéressantes, elles sont faibles à côté de ça. Mais c'est surtout le lyrisme encore là, ouais. Ça nous vient quand même un peu de Gounod et de Massenet, et il faut pas croire qu'il les détestait tant que ça, parce que quand Massenet est mort, il fait un très beau texte sur Massenet. Et qui, l'art de séduire avec élégance et pas voilà, enfin il en parle avec, et Gounod, on sait très bien que sachant que Gounod était dans son au jury président du jury du prix de Rome, il a mis des procédés de Gounod dans sa cantate L'enfant prodigue, il en a mis toutes les pages pour que Gounod trouve ça extraordinaire.
Très goudonien.
Il était très roublard, hein, Debussy.
Sur la vocalité, j'y reviens, Louis Langrée, est-ce que c'est, je veux dire, comment l'apprennent, vous qui avez dirigé plusieurs productions, déjà, comment les chanteurs arrivent à se saisir de ça? Est-ce qu'ils le font avec plaisir, d'ailleurs, avec réticence? Vous allez me dire, ça dépend peut-être des chanteurs aussi.
Il y a toujours un moment de grande frustration, parce que il ne faut pas chanter Pelléas. Alors là, je vais citer José Van Damme, que j'ai eu la chance de diriger dans Golo. Il disait Pelléas, c'est une œuvre qu'il faut parler plus haut. Et donc, il n'y a aucun effet vocal. Il y a juste la chanson de Mélisande au début du troisième acte. C'est d'ailleurs toujours émouvant, je trouve, à l'opéra, d'entendre une chanteuse chanter quelqu'un qui chante,
mais...
comme dans Les Noces de Figaro, Chérubin, Voi che sapete. Mais là, non, il faut dire le texte, il faut le dire plus haut, alors plus haut en tessiture, évidemment, mais plus haut aussi en spiritualité, comme si c'était un texte sacré. Et donc, il y a toujours un moment où le chanteur va dire, mais dans le fond... tout ce que tu me demandes, c'est de ne rien faire. Et effectivement, c'est frustrant. Mmh. Mais à partir de ce rien, en construisant sur ce rien, on arrive à un état de d'émotion et de perception qui est tellement rare à l'opéra, parce que d'abord, c'est une œuvre qui est destinée à être parlée. Pelléas, ça n'est pas la collaboration entre Maeterlinck et Debussy. C'est Debussy qui va prendre le texte d'une pièce destinée à être parlée et qui va la mettre en musique. Et donc, c'est extrêmement étrange, mais c'est une œuvre... Il y a du Wagner dedans, absolument, mais il y a aussi du Monteverdi. On est dans un théâtre de conversation, pas dans du théâtre de déclamation. Oui. Mais c'est pas de la conversation comme la nôtre aujourd'hui. Je veux dire, là, on parle, on ne chante pas. Il y a un moment où il y a un tel degré d'émotion que la musique devient inévitable, devient nécessaire, et que, du coup, on se met à parler plus haut.
C'est marrant, ça fait deux fois que vous employez le terme sacré, comme si Pelléas, c'était une forme de messe, quelque chose comme ça aussi.
Oui, mais vous savez, là en ce moment, il y a les représentations du Pelléas de Debussy, mais je suis déjà en train de répéter avec les comédiens de Denis Podalydès, Ludmila Mikhaël, Mikhaël Donsdal, parce qu'on va enregistrer la pièce de Maeterlinck avec la musique de scène de Fauré. Et dès que les comédiens parlent trop vite, ça devient presque banal. Alors que si on donne, mais sans emphase, sans charger les mots, mais simplement, vous savez, en les disant comme si on n'entendait que la partie que l'on peut voir d'un iceberg, mais qu'on en sente la force immergée, alors du coup, oui, on peut pas dire les choses trop vite. Parce qu'il faut qu'elle résonne en nous. C'est très étonnant, mais lors de la première production de Pelléas, parlée au théâtre, il y avait un tulle entre la scène et la salle. Et puis, les comédiens avaient un maquillage gris, ce qui fait qu'on les voyait à peine, on voyait des ombres. Mais du coup, on entendait, on écoutait le texte.
Pelléas et Mélisande de Claude Debussy à voir, donc, pour 4 représentations encore à Paris, au TCE, Théâtre des Champs-Élysées, sous votre direction, Louis Langrée et la mise en scène d'Éric Ruff. Un mot encore, oui, pardon.
Oui, et après, le 24 mai.
Ah, mais ça, on le redira après. Ça, je vous le dis, dans les concerts, on le dira après. Là, j'étais juste sur le Pelléas. L'Orchestre National de France dans la Fosse, Patricia Petitbon, Jean-Sébastien Bousse, c'est jusqu'au 17 mai. Je l'ai dit, déjà.
Lionel Esparza, Classic Club, France Musique.
On va faire un détour par Franz Schubert, si vous voulez bien. Philippe Cassard, Nathalie Dessay à nouveau. Franz Schubert, Nachtviolen par Nathalie Dessay et Philippe Cassard. Le disque est sorti il y a quelques semaines chez Sony. Il rassemble que des leaders de Franz Schubert. Alors c'est pas évidemment, on le sait, Philippe, le premier disque que vous faites avec Nathalie. Il y avait ses fiançailles pour rire avec plein de musique dedans, très drôle. La pochette, on s'en souvient. Il y a eu le disque de Bussy qu'on a écouté tout à l'heure. Puis il y a tous les concerts que vous faites maintenant. Mais l'arrivée à Schubert, autant c'est naturel pour vous, qui avait beaucoup joué Schubert, qui avait écrit sur lui aussi. Autant pour Nathalie Dessay, je crois que ça a été un parcours. Hein. Et c'est vous qui l'avez mené dans ce parcours-là.
Ah, ça, j'en suis assez fier. Non, je pense que je me souviendrai toujours de nos
toutes premières répétitions, nos premières séances de travail au moment des Debussy. Donc ça remonte à maintenant 2010, 11. Hein, et où je lui disais quand même un jour, Nathalie, il faudrait que vous chantiez Schubert. Ah non, ça jamais. Il y avait comme ça un refus. Et je pense que c'était juste une peur, une crainte irraisonnée avec Nathalie. Il faut quelquefois la forcer, la conduire. Mmh. Et je suis revenu, parce que je suis très insistant, je suis revenu à la charge au fur et à mesure que nos concerts se déroulaient. Et je trouvais que Schubert était absent injustement, parce que il suffisait de choisir les leaders qui lui conviennent et des leaders à incarner, parce que Nathalie est une actrice qui aime la poésie, qui aime le théâtre, qui aime les textes et qui aime les habiter de son talent, de son intuition, de son art et de sa sensibilité. Et donc on a fait un choix de texte évidemment très sévère, non pas qu'il y avait beaucoup acheté chez Schubert, il n'y a pas grand chose à acheter, c'est quand même d'un niveau, mais on a choisi vraiment des leaders dans lesquels elle puisse vraiment faire éclater sa personnalité sous toutes ses formes. Donc il y a des leaders par exemple qui sont plutôt chanté par des hommes, pas exclusivement, mais plutôt. Par exemple, il y a le Herl König. Mmh. Bon, alors il y a quelques grandes chanteuses.
Très théâtrales, oui. En plus.
Alors, et nous, quand notre dernier programme de récital il y a 2 ans, on avait 8 leaders de Schubert pour commencer le récital. Et le récital commençait par le Roi des Aunes, et elle était tout de suite là. Voilà, ça y est, elle agrippait les auditeurs, elle les prenait par le collet, elle ne les lâchait plus. Et en même temps, des textes sur la nature. Dans ce disque, il y a par exemple un texte que je lui ai fait découvrir, le Göttergriechenland, qui est deux merveilleuses strophes d'un immense poème de Schiller sur c'est une ode panthéiste, c'est une ode sur la fin de la nature. Et qui est en fait très visionnaire par rapport à notre époque.
Ça pourrait être arrivé, oui.
Et donc elle l'a adoré. Mais ça aussi, c'est un lied qui est quasiment chanté uniquement par des hommes. Et le Liebesbotschaft aussi, qui est au début du disque.
Et dans le chant du cygne.
Donc voilà. Et puis c'est surtout elle s'est laissée, elle qui est si sensible à la musique, à la mélodie, à l'harmonie. On a choisi aussi le Nachtviolen qu'on vient d'entendre. Enfin, la qualité de la musique a été évidemment très importante pour ce choix. Mais elle s'y est faite, mais c'est qu'elle veut continuer à en apprendre. Et moi, j'en suis très très heureux, bien sûr.
Ouais. Est-ce qu'on a entendu là quelque chose qui était extraordinairement délicat aussi? On sait qu'on peut faire le Schubert avec beaucoup plus de, parfois, en tout cas, surtout du côté lead, de profondeur, de grosseur, machin. Vous êtes resté dans ce lead-là, en tout cas, pas nécessairement dans les autres. Dans quelque chose qui est très attentif aussi à ce qui se passe au-dessus.
Ah, c'est-à-dire que Nathalie, moi, que ce soit en concert ou au disque, mon petit critère de pianiste avec Nathalie, c'est que je dois absolument percevoir la moindre de ses intentions, la moindre de ses inflexions. Si je n'entends pas, c'est que ça ne va pas, c'est que je ne joue pas comme il faut. Donc à moi de m'adapter, de trouver les équilibres, de défendre la ligne mélodique, la basse, tout ce que vous voulez, mais il faut que chaque millisecondes de son chant, de ce qu'elle veut faire passer, soit perceptible à mon œil droit, à mon oreille droite. Sinon, ça ne va pas. Et donc, quelquefois, ça marche pas et il faut travailler. Enfin, et en même temps, j'essaie de, faut pas que ce soit éthique. Enfin, il faut quand même qu'il y ait de la matière. Oui, il faut
la chair.
Pour que sa voix aussi puisse se poser sur un tapis. Enfin, pour que ses harmoniques se dégagent. Mais elle a une voix qui évidemment est un petit peu, c'est un peu recentré. Les médias qu'elle avait difficilement il y a quelques années sont maintenant plus riches de sonorités, de couleurs. Ça ne l'intéresse absolument plus d'aller dans les aigus stratosphériques, c'est-à-dire au-delà du contrut ou contrut dièse, ça la fatigue plutôt qu'autre chose. Enfin, je dis ça fatigué aux deux sens du terme. Donc ça ne l'intéresse plus, on va dire. Et donc, je trouve qu'elle a fait un énorme travail, justement, sur la couleur. On a été aussi, je dois dire, beaucoup aidé par Wolfgang Holzmeier, à qui j'ai fait appel, avec qui j'ai beaucoup travaillé ces 20 dernières années, et qui nous a apporté vraiment son expérience, son savoir sur la langue allemande, etc. Et on a écouté quelques très beaux chanteurs, que ce soit Christa Ludwig, Christian Gerhaher, Görner. Voilà, on a vraiment travaillé sur ce disque.
Je le disais à l'instant, Philippe Cassard, à quel point le pianiste doit être attentif à ce qui se passe à côté de lui, mais enfin c'est facile, c'est juste à côté, puis il n'y a qu'un instrument. On doit faire la même chose à l'orchestre, normalement Louis Langrée, non, mais là c'est un peu plus compliqué, ils sont loin, les chanteurs, et puis on a 80 personnes en face à bouger. Est-ce que c'est la même chose d'ailleurs ?
techniquement pas tout à fait, parce que vous dirigez. Mmh. Et puis l'orchestre est dans la fosse. Il y a certains musiciens d'ailleurs qui n'entendent pas du tout ce qui se passe au-dessus d'eux. Mais il y a quand même ce plaisir d'accompagner. Et je sais que souvent, beaucoup de pianistes disent « Ah non, moi je ne suis pas un accompagnateur, je suis un vrai pianiste. » Et donc d'avoir des pianistes de la qualité de Philippe qui aiment... Accompagner, ça ne veut pas dire suivre, c'est être avec. C'est créer tout un univers sonore dans les quelques mesures d'introduction qui vont faciliter l'expression et guider aussi, d'ailleurs.
En fait, tu fais ça aussi. Moi, j'ai eu le Péléas et Mélisande de la dernière fois avec Nathalie, Laurent Naouri, que tu as fait aux Champs-Élysées. Et ça, c'est en version de concert, en plus, qui est beaucoup plus risqué, en vérité, pour les chanteurs. Et je me souviens d'une... Alors, vraiment, d'être avec. Alors, ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé. C'est d'abord cet amour que tu as des chanteurs, et puis c'est le tissu sonore que tu avais serti derrière eux, autour d'eux. Enfin, c'était... Quelle leçon! Alors, moi, je trouvais ça exceptionnel, quand même.
Ça me fait penser à une phrase de vous que j'ai lue quelque part. Enfin, je ne suis pas sûr qu'elle est de vous. Non, c'est Hermine Jordan qui vous avait dit ça un jour, je crois, pareil, lu dans un article ou un autre, Louis Langrée, qui vous disait l'essentiel du travail du chef d'orchestre, c'est de donner aux musiciens envie de jouer avec toi.
Oui, sans doute.
Oui.
Oui, absolument. Mais c'est tout à fait vrai, oui. Et puis, c'est pas une chose qu'on peut demander. Hein. Vous pouvez vous pouvez corriger la précision d'un rythme ou de l'intonation ou des balances, mais le son, la qualité du son, ce sont les musiciens qui la donnent, qui l'offrent. Ça ne se demande pas.
Mais en effet, pour qu'ils aient envie de le faire, là, c'est le chef qui donne l'envie de le faire. Un peu quand même.
Oui, mais après, on fait ça ensemble. Oui. Et le bonheur de respirer avec des chanteurs. Mais c'est... Oui, j'aime ça. Je ne sais pas respirer avec des danseurs, par exemple.
Ah oui.
Je ne sais pas diriger des ballets. Mais avec des chanteurs, oui, j'aime.
On va revenir à ce disque, Nathalie Dessay, Philippe Cassard, autour de Schubert.
Was ich leide,
Franz Schubert, dont ce Lied de Mignon, on va les annoncer comme ça, par Nathalie Dessay et Philippe Cassard sur ce disque paru il y a peu sur le label Sony. Vous écoutez France Musique et le Classic Club. Il est 22h55, on refermera cette émission dans quelques minutes, messieurs, en voyant la suite de vos actualités aussi. Mais enfin, je vais saluer Olivier qui nous a rejoint ce soir. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
L'un de nos serveurs du Bedford. Il se trouve qu'on a écouté tout à l'heure des Nachtviolen. Ben, il se trouve que vous nous avez fait aussi un cocktail à la violette.
C'est ça.
Cette semaine.
Ultraviolette.
Ultraviolette, c'est pas mal. Il est fait de quoi ce cocktail, alors, dites-moi?
C'est du rhum, oui. Du jus de citron vert, du jus de pomme, du Grand Marnier et du sirop de violette.
Du sirop de violette, que vous rajoutez, alors si j'ai bien vu,
oui, on rajoute,
à la fin.
À la fin.
C'est-à-dire que le cocktail il est déjà fait et vous rajoutez juste au fond du verre la violette.
C'est ça. Ah, oui. On le fait juste après, oui.
D'accord, c'est ça.
Là, c'est pour faire la couleur.
Oui, parce que sans la violette, la couleur est un petit peu blafarde, c'est ça. Hein,
c'est ça.
Oui. Alors, si je mets la paille juste au creux du verre et que je bois comme ça, je bois que la violette, du coup.
Mais après, il faut un peu remuer.
Ah, il faut remuer.
C'est ça.
Donc, il faut que le buveur travaille.
C'est ça.
D'accord, très bien. Vous l'avez inventé, celui-là, c'est vous? C'est invention,
oui, c'est
de vous,
c'est
Ludovic,
moi. Non, c'est moi.
D'accord, le week-end dernier. Parfait. Voilà. L'ultraviolette, qui sera donc, parce que vous l'avez bu en plus. Hein,
ah, oui,
hein, il est
délicieux.
Bien. Je veux que vous avez bien remué, en tout cas. Hein. Très bien. L'ultraviolette à boire donc à l'hôtel Bedford de jusqu'à dimanche au moins. Lundi prochain, on aura un nouveau cocktail spécial le Bedford. Merci Olivier. Messieurs, l'actualité, c'est des concerts, bien évidemment. Un concert ce dimanche, Philippe Cassard, avec Nathalie Dessay. Vous ferez le programme de tournée que vous avez donné, voilà, là pendant un mois.
C'est ça, Portrait de femme.
Ouais.
On va ajouter juste le pâtre sur le rocher avec le clarinettiste Thomas Savy. Mais sinon, c'est Schubert, Pfitzner. Et puis en deuxième partie, des Français, Chausson, Bizet, des pièces pour piano de Debussy, Ondine, La fille aux cheveux de lin, donc Portrait de femme, deux mélodies de Debussy. Et on termine avec une grande nouveauté dans le répertoire de Nathalie, L'air des bijoux.
Ah oui.
Donc il y a plusieurs marguerites en fait. Il y a le Gretchen am Spinnrade et le Lied der Mignon. Enfin, Marguerite est là, Gretchen. Et puis L'air des bijoux qu'elle chante d'une manière absolument incroyable.
Ce sera donc ce dimanche à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Vous serez dans les décors du Pelléas et Bélisande de Louis Langrée jusqu'au 17. Je le rappelle, d'autres concerts encore à venir avec l'Orchestre National de France. À Radio France le 24 mai, où vous ferez Pelléas et Mélisande d'Arnold Schoenberg. Bah oui, parce qu'il y a aussi ce grand poème symphonique. Hein. Est-ce que c'est poème symphonique? C'est bien ça comme dit. Hein.
Absolument.
Au même programme, il y aura le 4e concerto de Beethoven avec Nelson Frère. Puis je signale encore que vous allez enregistrer aussi donc la musique de scène avec toute la pièce de Maeterlinck pour France Culture. C'est ça, hein, Louis?
Oui, c'est un grand triptyque. Ouais. Donc il y a le Pelléas und Mélisande, le poème symphonique de Schoenberg. C'est du jeune Schoenberg, donc c'est le langage de la nuit transfigurée. C'est presque du Gustav Mahler. Et puis, à côté, il y a l'œuvre théâtrale avec la musique de scène. C'est pas de la musique qui est destinée à être écoutée en concert, c'est de la musique qui est destinée à être entendue. Et puis, on a donc théâtre musique et on a théâtre musical.
En quelques mois, vous aurez les trois Pelléas et Mélisande, en fait.
Oui, hein. On n'a pas celui de Sibelius.
Ah ben, c'est le seul qui manque, hein. Et puis, pour être complet, je dirais encore, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler peut-être, que vous serez à la scène musicale avec l'Orchestre Symphonique de Cincinnati au mois de septembre. Ça, ce sera comme un événement. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus me voir.
Merci, Lionel.
Merci.
Nous étions ce soir avec Maude Nourry, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Benoît Gaspard et Pierre Bornard.
Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
Je vous retrouve demain, jeudi, sous le titre À fond les tuyaux. Nous parlerons d'orgue. Nous serons avec Jean-Baptiste Robin, Bernard Faucroul et Philippe Lefebvre.
J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.